retour des expositions ce mardi 25 novembre à l'occasion de la journée des formations supérieures. L'occasion pour nous, pour vous et surtout pour les jeunes qui cherchent leur filière, leur orientation, de rencontrer eh bien, des lycées, des formations spécifiques, des IUT ou des universités. Peut-être même découvrir pourquoi pas leur vocation ou leur orientation. Nous sommes là jusqu'au bout. Nous, je vous rappelle qu'à 17h30 se tiendra une table ronde autour des études supérieures que choisir. Ça va être une conférence ou une table ronde plus précisément qui est à destination des parents et des élèves, voire des futurs étudiants.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Et nous recevons maintenant en plateau Christelle Leclèche et Philippe Glissman. Bonjour à vous. Sur la thématique de l'alternance et notamment l'alternance proposée par l'école supérieure de la Chambre des Commerces et de l'Industrie de l'Eure. Un sacré titre d'ailleurs.
Sacré titre.
Ben oui, je trouve aussi. Nous avons rencontré durant ces trois premières heures d'émission des universités, des IUT, des centres de formation. Nous avons très rapidement abordé la question de l'alternance, mais nous allons la creuser un peu plus avec vous. Qu'est-ce qu'un parcours en alternance? Alternance déjà. En quoi consiste un parcours en alternance?
Alors un parcours en alternance se fait donc avec deux contrats de travail. Donc vous avez le choix soit d'un contrat d'apprentissage pour les jeunes de 16 à la veille de leur 26e anniversaire ou un contrat de professionnalisation pour des jeunes qui ont plus de 26 ans. Donc le jeune est en contrat de travail avec une entreprise.
Poursuivez, oui, vous occupez pas de notre ami Damien.
Et donc, en parallèle, suit une formation. Donc, aux écoles supérieures de la CCI de l'Eure, nous proposons donc des formations de Bac plus 2, donc des BTS, à Bac plus 5 et un Master 2 en administration des entreprises. Et toutes ces formations se font en alternance, donc en partenariat avec des entreprises.
Alors, l'alternance se fait comment? En moitié-moitié? Ça dépend des cursus? Comment ça se réalise?
Ça dépend des cursus. Donc, sur du contrat d'apprentissage, en règle générale, nous sommes sur du moitié-moitié. Donc, 50% du temps en centre et 50% du temps en entreprise. Excepté sur ce qu'on appelle, nous, les formations dites supérieures, Bac plus 4 à Bac plus 5. Où là, on est plutôt sur du 25-30% en centre et le reste en entreprise.
On sent que dans ce mode d'apprentissage, il y a vraiment un ancrage dans le monde du professionnel hyper important, quasi qui prime sur l'enseignement, j'allais dire, plus scolaire. Parce que quand on fait 30%, 70%, oui. Au bout d'un moment, c'est quand même l'entreprise qui va apporter beaucoup de choses à l'étudiant.
Tout à fait. Alors, effectivement, sur les formations de Bac plus 3 à Bac plus 5, on est effectivement sur des formations dites professionnelles. On forme à des métiers tels que le métier d'acheteur, de manager achat et supply chain, de responsable qualité, sécurité, environnement ou de gestion d'entreprise. Donc effectivement, là, la partie professionnelle est beaucoup plus importante. Néanmoins, sur les Bac plus 2, donc les BTS que nous proposons en commerce, vente et administration, gestion, on est sur des diplômes éducation nationale. Et donc là, effectivement, il y a une partie professionnelle, mais également une partie théorique, puisque l'on prépare un diplôme.
Ces formations s'adressent à des élèves qui n'arrivent pas à se concentrer trop longtemps à l'école ou au contraire c'est un plus, un bonus pour l'avenir? Ou aux deux peut-être éventuellement.
Hein. Non, je pense que c'est peut-être un plus, mais disons que c'est une autre formation, c'est-à-dire que c'est une formation plus professionnelle, une formation, on quitte le mode étudiant, c'est-à-dire que bon, on met un pied dans la vie active. Donc c'est une formation qui aboutit à un métier. Hein. Donc après, tout dépend du projet professionnel du jeune. Si le jeune a envie de parfaire sa formation par un métier, l'alternance est mieux que le lycée, quoi.
est-ce que c'est aussi, au bout d'un moment, faire participer l'entreprise à la formation et à la réalisation des diplômes? Souvent, il y a le retour, enfin souvent, on a déjà entendu parler voilà, de diplômes qui étaient parfois soit un peu en retard sur la réalité de l'entreprise ou des modes de formation que les étudiants ne retrouvaient pas dans le monde actif. Est-ce que voilà, c'est faire rentrer, est-ce que l'entreprise du coup est partie prenante au diplôme, à la formation?
Tout à fait, donc les entreprises sont partie prenante pour la validation de toutes nos formations, puisqu'elles font partie des membres du jury de validation de fin d'année. Il y a également un suivi qui est fait en entreprise pour savoir quelles sont les missions réalisées par les jeunes en entreprise et si on colle vraiment à la réalité par rapport au programme. Et certains programmes sont de toute façon réalisés en partenariat avec les entreprises. On est vraiment, on colle à la réalité de l'emploi.
J'imagine que du coup après 2 années ou 3 ou 4 années en alternance
ou plus,
on a quasi intégré l'équipe de l'entreprise dans laquelle on était en stage hein, sur des taux comme ça de, on est quasi recruté d'office à la fin, non?
Alors soit on est recruté d'office et on parle pas de stage hein, on parle bien de salariés d'entreprise et sont en contrat de travail, soit ils sont effectivement embauchés dans l'entreprise où ils ont réalisé leur alternance, soit le jeune fait le choix d'aller voir, d'avoir une autre expérience dans une autre entreprise, ou voir aller à l'étranger aussi, on en a de plus en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 6 mois après la fin de leur formation, on a 80% de nos jeunes qui sont en emploi.
Ce qui est énorme, par rapport au cursus plus traditionnel. Non, on ne parle pas de tradition, mais on parle de plus scolaire, quoi.
Tout à fait.
Par rapport au parcours plus scolaire.
L'avantage de l'alternance, c'est l'expérience professionnelle.
Sur ce que vous proposez, là, je vois, il y a en vente, il y a en administration, gestion, en qualité, sécurité, sûreté, environnement, en achat et supply chain.
C'est
la logistique, hein, je crois.
C'est la logistique, c'est ça, monsieur.
Excusez-moi, je vais le glisser, vous venez me l'expliquer hors antenne. Ça s'adresse quand même à certains secteurs en particulier, l'alternance, où ça peut s'ouvrir à tous les secteurs professionnels.
Je peux faire
de la médecine en alternance.
À ma connaissance,
c'est peut-être un secteur très particulier.
Là, je pense que c'est particulier. À ma connaissance, non. Par rapport à nous, aux formations que nous proposons, on s'adresse à tout type d'entreprise. Nous travaillons avec des entreprises dans le pharmaceutique, dans l'industrie.
Dans le bâtiment.
Le bâtiment, le nucléaire, les services, le commerce, la grande distribution. C'est assez large au niveau des entreprises.
Aujourd'hui, on a bien compris que c'est une façon de se former assez porteuse, hein, dans le sens où voilà, le taux d'employabilité derrière est très élevé. Oui.
Ainsi que le taux de réussite aux examens.
Ça c'est important aussi, le taux de réussite aux examens. Est-ce que ça fait partie des dispositifs ou des dispositions plus précisément suffisamment utilisées par les étudiants? Est-ce qu'il y a encore plein de postes à pourvoir en alternance ou c'est à chacun d'aller arracher son alternance?
Alors, à aujourd'hui, pour les écoles supérieures de la CCI de l'Or, on n'a plus grand-chose à proposer. Enfin, toutes les offres ont été pourvues. Je sais que dans certains secteurs d'activité, dans l'industrie ou la mécanique, c'est un petit peu plus compliqué. Pour nous, on arrive à remplir nos sections et à répondre de façon positive aux entreprises et à leur proposer des candidats.
Moi, je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y a un manque d'informations sur l'alternance. Pardon. Un manque d'informations, puisqu'il y a pas mal de jeunes que j'ai vus ce matin qui nous demandaient des renseignements sur l'alternance. Ils ont une méconnaissance de l'alternance évidente. Donc, malheureusement, on n'a pas assez d'étudiants motivés avec des projets professionnels qui viennent nous voir par rapport à la demande des entreprises. C'est-à-dire qu'on a des entreprises chez nous, en tant qu'école de la Chambre de commerce, qui sont en demande, mais derrière, on n'a pas assez de jeunes motivés qu'on peut mettre. Quoi.
Dernière question, vous disiez tout à l'heure que c'était un contrat de travail particulier. Du coup, on a une rémunération, j'imagine, quand on est en alternance.
Absolument.
Oui. Absolument. Vous avez un pourcentage du SMIC qui est lié à votre âge et à l'année de formation. Donc ça, le minimum est de 49% et le maximum de 78% en apprentissage. Après, il y a des entreprises qui donnent plus aussi. Hein. Ça, comme tout salaire, ça se négocie, on va dire. Mais il y a une grille, voilà.
Donc c'est aussi une parfois on entend les étudiants qui ont des difficultés, voilà, accumuler les petits boulots, plus les études, plus... C'est également aussi l'opportunité, non, parce que l'opportunité c'est déjà de se former, en alternance, mais c'est s'assumer aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a une certaine autonomie avec cette alternance. Je gagne ma rémunération, j'ai un emploi, même s'il n'est pas plein temps, j'ai une rémunération et c'est déjà de l'autonomie.
Une formation et un diplôme et une autonomie, ouais. Tout à fait financière. Ouais.
Très bien. Bah, merci à vous d'être passé par nos micros. Christelle Leclèche et Philippe Gliskman.
Oui.
Vous êtes tous deux coordinateurs de l'alternance à la CCI de l'Eure.
Aux écoles supérieures de la CCI de l'Eure.
Vous savez que c'est très vaste, la CCI de l'Eure. Très bien. Bah, merci à vous d'être passé par nos micros pour nous parler de cette alternance.
Merci à vous.
Merci.
Maestro musique. C'était Gust avec le titre Hip Hop First of All. Nous sommes toujours au hall des expositions à l'occasion de la journée des formations supérieures.
T'es pas en classe verte, toi ? Ça semblait bien que c'était toi, hein ? Avec ton vieil accent de chanteur de rap, là. Hip Hop ! Et cette manie que tu as de cracher partout comme en Lara ! C'est excessivement énervant.
Le mix des cultures, principe actif, 102.4 FM.
Voilà, et il suffit de recevoir des étudiants pour avoir un public devant nous, bah, ça fait bien plaisir. Nous recevons du coup Bérénice et Evie du lycée Sangor. Vous avez été rejoints par une de vos collègues, hein, si j'ai bien tout suivi.
Oui, c'est ça.
Qui s'appelle
Rebecca.
Rebecca. Et nous avons Serge qui est actuellement au lycée Aristide Briand. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui sur la journée de la formation supérieure. Vous avez été, c'est dans le cadre du programme scolaire, de votre journée de lycéen que vous êtes là aujourd'hui, si j'ai bien tout suivi. Est-ce que vous aviez préparé votre parcours sur les différentes structures, lycées ou propositions de formation ? Serge, est-ce que vous aviez préparé votre parcours aujourd'hui ?
Non, pas vraiment, mais j'étais censé voir un stand où il parlait d'un BTS assurance ou dans la banque.
Ça, c'est a priori votre orientation pour l'année prochaine.
Ouais.
BTS, assurance et banque.
Ouais, tout à fait.
Vous les avez rencontrés ?
Non, pas du tout, parce que c'est pas...
Alors, viens dans le micro.
C'est pas exposé dans le forum. Donc, j'ai dû aller m'orienter vers... Le CEO.
CEO ?
Oui. Mais du coup, ils m'ont passé quelques sites internet pour pouvoir vérifier ce que je voulais faire plus tard.
Est-ce que cette question, parce que la question elle se pose très clairement, vous êtes en terminale, Serge, à la fin de l'année c'est le bac.
C'est le bac.
Et une fois que le bac est passé, si tout va bien, c'est l'entrée dans une école, une université, un IUT, quelque part finalement, c'est ça. Est-ce que ça fait partie des préoccupations de l'année ? J'imagine que oui.
Ouais, bah oui.
Et quelle part cette orientation prend dans votre vie ?
Pour le moment, je sais pas.
Vous savez pas trop encore. Non. Est-ce que vous êtes dans le flou, clairement ? Voilà, ça peut être une réponse aussi, d'être dans le flou. Hein, ça peut être
non,
déconcertant aussi.
Je sais pas exactement ce que je veux faire, mais je verrai selon mon orientation, en fait.
Est-ce que le travail qui va être effectué cette année, les résultats scolaires, très clairement, est-ce que ça va orienter votre choix en fin d'année ?
Oui, ça comptera beaucoup pour pouvoir m'orienter. Et je verrai par rapport à mes résultats au niveau du bac ou...
Clairement, ça ouvre et ça ferme des portes aussi, les résultats du bac, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a plusieurs choix ? Est-ce que, voilà, Serge, vous avez 2, 3, 4 stratégies en fonction de comment vont se passer les choses ou il n'y en a qu'une ?
Pour le moment, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il n'y en a qu'une.
Pourquoi pas, j'ai envie de dire, si elle est bonne, il en suffit d'une.
Ouais, c'est clair.
Je vais me retourner vers Bérénice, Evie et votre collègue dont j'ai déjà oublié le prénom.
Rebecca.
Pour vous, Evie, comment ça se passe cette orientation ? Là, vous êtes en terminale également. Comment ça se passe, les questions autour de ce que vous allez faire l'année prochaine ?
Pour moi, tout est déjà clair, en fait. Je sais déjà ce que je veux faire. En fait, je suis un peu venue ici, surtout pour me renseigner sur l'armée. Mais il y avait un peu trop de monde en fait au stand, donc ce qui fait que je pense que je vais y retourner plus tard.
Vous, votre orientation, c'est quoi ? C'est se destiner à des métiers de l'armée ?
Être infirmière militaire.
Pourquoi militaire d'ailleurs ?
Parce que ça bouge un peu plus et que j'aimerais bien en fait faire l'armée pour voir comment ça se passe sur le terrain et pourquoi pas être juste militaire en fait.
Quelles sont les formations qui vous attendent l'année prochaine si tout va bien ?
D'abord, je vais commencer par ma formation d'infirmière. Donc,
C'est deux ans ?
C'est 3 ans.
3 ans.
Oui, je commence les concours cette année. Je vais en passer 3. Et puis, si je les ai et si j'ai mon bac, je rentre à l'école d'infirmière en septembre.
Très bien. Et après, il y a 3 ans pour...
3 ans. Et après, peut-être une formation que je vais faire parce qu'elle a été annulée, celle à Toulon. Donc, je pense aller à celle de Lyon qui va se faire. Je verrai bien. Enfin, j'ai encore 3 ans pour me décider. Donc.
C'est très clair dans votre tête ce que vous voulez faire. Ça l'a toujours été ou c'est assez frais, ce dessin assez clair de ce que vous comptez faire ?
J'ai toujours voulu être infirmière depuis toute petite. Après, infirmière militaire, ça s'est décidé pendant que j'ai fait ma journée d'appel, en fait. Quand ils ont parlé de tout ce qui était militaire, et ça m'a un peu influencé dans mon choix. Donc, je pense que ça... un peu aidé pour mon projet professionnel en fait.
Très bien. Est-ce que c'est aussi clair pour vous, Bérénice ?
Oui, moi c'est clair, mais... C'est clair, mais c'est pas ici en fait. Enfin, je veux aller à la fac et là, il n'y a pas de stand pour les facs. Donc,
Alors, aller à la fac, est-ce que vous avez un objectif dans la vie à la fac ? Pour étudier quoi ?
La fac de médecine.
Fac de médecine. Ah oui, clairement, vous vous destinez à être médecin.
Oui.
Très bien, donc pareil, c'est assez clair.
Oui.
Est-ce que vous avez eu toutes les informations de ce qui va se passer en fac de médecine ? Est-ce que vous avez tous les renseignements en main pour savoir comment vont se passer les 7, 8, 9 années de 12 les années à la fac? Non, c'est pas qu'à la fac, après il y a les internats.
Il y a les internats et bah, en gros, après 12 ans d'études, je serai chirurgien, quoi.
D'accord, ça c'est votre objectif. Pareil, est-ce que c'est clair depuis longtemps ce que vous voulez faire? Ça s'est dessiné quand à peu près?
En sixième.
En sixième. Ah oui, c'est-à-dire qu'en sixième, vous avez un projet professionnel. Cela dit, c'est pas très difficile d'avoir un projet professionnel en sixième. Hein. C'est juste le tenir jusqu'à l'année du bac et l'orientation du coup.
Oui.
Les informations sur, le parcours de médecine, j'imagine que vous n'allez pas le faire sur Évreux, votre parcours médecine. Vous visez le faire où?
À Lille.
À Lille, d'accord. Et du coup, toutes les questions d'hébergement, de statut d'étudiant, de bourse, est-ce que c'est des questions qui sont également très claires pour vous ou c'est encore des éléments à glaner durant l'année qui arrive?
Bah, on ne peut pas dire que c'est clair, mais je me suis renseignée pour les bourses et les appels et tout. Et pour, après, c'est encore trop tôt pour chercher un appartement pour le mois de septembre.
Il faut déjà le bac. Hein. D'accord, mais en tout cas, le parcours est assez clair et vous êtes en pleine connaissance des étapes qui vont alimenter votre parcours.
Oui.
Rebecca, vous êtes installée là face à un micro. Imaginez bien que j'allais vous poser quelques questions. Hein. Rebecca, pour vous, comment se passe cette histoire de parcours? Est-ce que c'est clair aussi pour vous?
Non, franchement, pour moi, c'est pas du tout clair. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venue ici pour essayer d'éclairer ma lanterne. Je suis dans une filière sanitaire et sociale, donc je suis venue pour voir les débouchés qu'il peut y avoir. Ensuite, ceux qui infirmières ou médecins, etc., ça m'intéresse, mais pas vraiment, justement. Je voudrais trouver plutôt un truc qui pourrait vraiment, vraiment m'intéresser, en fait.
Oui, parce que je vous dis, faire 12 ans d'études pour un truc qui intéresse que moyennement, c'est un sacré investissement, hein.
Donc, voilà.
Vous avez rencontré des gens, des écoles, des professionnels, des enseignants sur les stands-là qui ont commencé à vous aiguiller?
Non, pour l'instant, on vient d'arriver un peu, donc c'est pour ça.
Est-ce que vous avez préparé votre parcours sur la journée? Est-ce que vous avez dit, j'ai le plan, j'ai tous ceux qui sont présents aujourd'hui, tous les centres présents aujourd'hui, et je vais organiser mon parcours comme ça? Est-ce que vous avez préparé votre parcours aujourd'hui?
J'ai surtout regardé les filières et je vais choisir les choses en fonction de ma filière, donc dans le sanitaire et donc dans le social. Et je vais voir aussi surtout les métiers paramédicaux, pas que infirmière, mais ce qu'il y a, et je vais m'intéresser surtout sur ça.
Alors on avait un ergothérapeute tout à l'heure qui disait qu'il y avait de la débouchée sur l'ergothérapie. Hein.
Ah bon,
hein, on vous donnera les informations si vous voulez. Après, ils sont présents avec un stand. Hein. Mais est-ce que cette obligation, parce que vous êtes obligé de vous orienter cette année, hein,
oui.
J'imagine, est-ce que c'est quelque chose qui vous met la pression? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer quoi qu'il arrive assez naturellement? Comment ça se passe quand on est à la veille du bac à devoir choisir ce qu'on va faire l'année prochaine?
Après, on est obligé de faire un choix, parce que si on ne fait pas de choix, on redouble. Ça me met pas forcément la pression, parce que j'ai pas vraiment envie de travailler plus tard, parce que je préfère gagner ma vie sans travailler. Je pense que c'est le même cas pour tout le monde. Mais
c'est assez rare hein, comme opportunité, gagner sa vie sans travailler. Hein.
Oui, je sais. C'est pour ça que je sais pas. Je vais chercher. Hein, c'est tout.
Oui, Evie.
Moi, je voulais rajouter que même si ça avait du bac, faut faire le bon choix, parce que c'est vraiment à ce moment-là que tout est décisif, en fait. On ne peut pas revenir en arrière après, à part si on veut redoubler. Donc, notre choix, il faut qu'il soit fait maintenant. Maintenant, parce qu'on ne peut pas après, c'est trop tard.
D'où l'intérêt de mûrir une réflexion avec tous les éléments et toutes les informations
que
vous pouvez obtenir sur vos filières et vos choix.
C'est ça, parce qu'il y a les admissions post-bac qui ne vont pas tarder à être ouvertes. Et puis, il ne faudrait pas les remplir trop tard. Quoi.
Tant qu'à faire, ce serait bien.
C'est ça.
Vous, Serge, j'ai pas l'impression que vous soyez en pression particulière, là.
Non, pas du tout.
Si, approchez-vous du micro.
Non, pas du tout, j'ai pas trop de pression.
C'est moi qui est en train de vous la mettre depuis tout à l'heure en vous demandant si vous en avez pas, c'est ça?
Ah non, pas du tout.
Non.
Très bien. Merci à vous, en tout cas, Bérénice, Evie, Rebecca et Serge, de nous avoir parlé de vos préoccupations. Merci à vous.
Merci à vous, alors. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Eh bien, monsieur Deuze, partons en musique. Gears Way took the so long. Ah, j'étais bien parti pourtant. Hein.
Principe actif 102.4 FM.
Mais non, mais je mets du cœur comme ça à donner les titres en anglais et je m'en sors pas. J'ai trop long ce titre, trop long. Nous sommes toujours au hall des expositions à l'occasion de la journée des formations supérieures qui fermera ses portes pour l'accueil sur les stands à 17h30 mais qui se poursuivra justement de 17h30 à 18h30 autour d'une table ronde avec la thématique études supérieures, que choisir, et ça s'adresse autant aux parents qu'aux étudiants. Nous recevons en plateau maintenant Laetitia Tocard et Géraldine Bengoa. Bonjour à vous.
Bonjour,
bonjour.
J'ai écorché vos noms.
Non, pas du tout. C'est bon.
Ah, pardon. Ouais. Alors, vous êtes du CFA de Saint-Étienne-du-Rouvray, le CFA promo trans, et donc vous faites tous les métiers autour du transport. On l'évoquait juste avant de prendre l'antenne ensemble. Alors, le transport, bien entendu, il y a le chauffeur routier, mais il y a tous les métiers qui vont autour, à savoir la mécanique et tous les métiers de la logistique.
Exactement.
Alors, vous proposez des formations du CAP au BTS. Est-ce qu'on pourrait brosser un peu largement les métiers du transport, du coup ?
Alors, les métiers, en un premier temps, on va avoir du CAP au bac, voire bac plus 1 en mécanique poids lourd. en alternance uniquement puisqu'on est sur un CFA, donc contrat d'apprentissage, 15 jours en CFA et 15 jours en entreprise.
En garage en l'occurrence pour le
garage,
la mécanique
ou concession. Ça dépend. Après, on va aller sur un BTS transport et prestations logistiques. Donc là, on est plutôt sur le métier d'exploitation. Donc on va gérer les flux de marchandises d'une entreprise. Et puis après, on peut aller sur une formation que nous, on appelle le titre professionnel, qui est l'équivalent en fait d'un CAP, pour être conducteur routier. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui.
Alors, conducteur routier, c'est pas uniquement un permis de conduire poids lourd, c'est aussi une formation avec un tas de choses qui vont autour.
Oui, par rapport au métier.
Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Parce que du coup, finalement, on apprend à utiliser en auto-école le volant, les pédales, les vitesses et toutes ces choses-là.
Bah là, en fait, ce qu'on propose, c'est un titre pro, donc conducteur poids lourd. C'est un titre reconnu par l'État, c'est un diplôme d'État, donc qui dure à peu près 3 mois, dans lequel est inclus donc le permis C, lourd, plus la FIMO.
Alors,
c'est quelque chose qui est obligatoire en fait. Ce qui est sécurité sur route. Un exemple, comment prendre un rond-point avec un chargement bien spécifique à l'arrière de la remorque.
Prend pas pareil si c'est des moutons
ou des
cartons de fonte.
Eh ben non. Plus la matière dangereuse qui est incluse dedans. Voilà.
Avec toute la catégorisation, j'imagine,
voilà,
des matières dangereuses et des précautions en cas de problème.
Tout à fait.
Donc ça, c'est pour la partie chauffeur.
Voilà.
On a vu la partie mécanique et la partie plus logistique d'organisation. Est-ce que ce sont des métiers porteurs ? Est-ce que on recrute dans la logistique ? Est-ce qu'on recrute des chauffeurs poids lourds ? Est-ce qu'on recrute des mécaniciens poids lourds ?
Eh oui, c'est un secteur qui se porte plutôt bien par rapport à d'autres. On ressort par rapport à tout ce qui peut être analyse ou observatoire par rapport à la branche professionnelle. Donc le transport ressort le second en fait au niveau du secteur. Au niveau des postes de conducteurs, aujourd'hui, on a encore beaucoup de demandes. Et en mécanicien, c'est même devenu très compliqué. Les entreprises recherchent des bons mécaniciens, mais n'ont pas forcément d'assez de candidatures.
Les actualités régulièrement parlent de la profession du transport. Régulièrement des reportages autour du transport poids lourd, de la logistique ou des choses comme ça fleurissent. Alors sûrement que ça marche hein, de diffuser ce type de reportage, mais en l'occurrence, ça floute un petit peu aussi la réalité du métier aujourd'hui. De quoi est concrètement le métier du transport ? On a tendance de dire que les entreprises s'en vont et le chauffeur est tributaire des entreprises, j'imagine. Quelle est la réalité du milieu du transport ?
Je vais te laisser parler, Laetitia, parce que ça, c'est ton domaine. Hein.
Donc, en fait, oui, on est toujours... en fait, on a la vision, effectivement, du transport au niveau international, puisqu'on va parler de la concurrence des pays de l'Est. Mais maintenant, il faudra toujours ravitailler le centre commercial. On est juste à côté aujourd'hui de Cora. Et on aura bien besoin d'un poids lourd pour ramener, de toute façon, nos pots de yaourt, les crayons qu'on va acheter demain. Et automatiquement, les entreprises, notamment tout ce qui est plateforme alimentaire, tout ce qui est le e-commerce aujourd'hui, a besoin, effectivement, de personnes qualifiées en logistique, mais également de personnes conducteur poids lourd, puisqu'il y aura toujours besoin d'un véhicule jusqu'on va dire à l'entreprise, donc jusqu'à effectivement une entreprise comme Cora.
Alors est-ce que finalement les métiers du transport se localisent par rapport à l'image du routier qui part toute la semaine sur les routes par exemple, est-ce que voilà, on est plutôt dans ce modèle
oui,
du routier
oui,
qui est sur la route toute la semaine
ou
est-ce qu'on relocalise un petit peu ces métiers du transport?
Il y a de moins en moins de découchés, ça c'est certain. C'est plus le routier qui va partir à la semaine, il y en a encore mais beaucoup moins qu'avant.
On est plus quand même sur des routiers aujourd'hui, national, déjà c'est déjà très compliqué. On est vraiment sur du départemental, régional et ça va s'arrêter là. Au niveau du conducteur, oui.
Voilà, ça le relocalise
et
un petit peu.
Et ça coûte beaucoup moins cher aussi. Parce que même si on a tendance à parler effectivement de la concurrence, du niveau des pays de l'Est, que c'est moins cher...
Clairement, c'est en pleine actualité.
Il y a eu des reportages régulièrement. Il y a eu Zone Interdite là dernièrement qui a montré une image pas très...
Je parlais de reportage.
Oh, tout de suite.
Laetitia, t'as fait une bêtise.
Désolée.
Non, mais au-delà de ça, des reportages très sérieux qui démontrent finalement entre mondialisation et relocalisation. Enfin, c'est la réalité de l'emploi d'ailleurs, même au-delà du transport et de la logistique.
Ouais.
Hein, on est tiraillé entre deux extrêmes, quoi. Deux visions diamétralement opposées, la mondialisation et de l'autre côté une relocalisation de certaines.
Et d'un savoir-faire.
D'un certain savoir-faire. Et du coup, c'était vraiment l'objet de ma question, savoir si ce métier autour du transport était plutôt...
Hyper dur et il embauche encore.
C'est un marché porteur.
C'est un marché encore très porteur.
Oui.
quelles sont les joies et les inconvénients du coup de ces métiers dans le transport très largement ou plus précisément par secteur d'activité, parce que j'imagine que quand on gère une plateforme on n'a pas les mêmes joies et les mêmes préoccupations que le chauffeur ou que le mécanicien.
Alors là, c'est plus compliqué comme question, parce que nous, on ne l'exerce pas. Donc, on peut toujours relater les faits, mais ce n'est pas nous qui l'exerçons. C'est vrai qu'il aurait préféré avoir quelqu'un qui exerce la profession. Après, pour ces personnes qui s'orientent sur le transport logistique, c'est des personnes généralement qui souhaitent aller sur un secteur qui bouge et qui soit dynamique. C'est sûr que ce n'est pas un métier statique. On évolue aussi en fonction des tendances au niveau de la loi, des nouvelles réglementations. Donc il faut aussi ça des personnes qui ont quand même une curiosité, que ce soit le mécanicien par rapport à son véhicule poids lourd, parce que son véhicule, aujourd'hui, un poids lourd, il est bourré d'électronique, d'informatique. Donc s'il n'a pas la curiosité de s'y former, il va être dépassé. Après, si ce soit des personnes dans le secteur de la logistique, aujourd'hui, on sait que le e-commerce se développe. Il faut aussi se mettre avec cette nouvelle technologie. Alors c'est un métier où, effectivement, il faut avoir un dynamisme et une curiosité.
C'est ça, on ne finit pas sa carrière comme on l'a commencé a priori.
Non, pas du tout.
Et il y aura du mouvement entre deux. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait du mouvement.
Même c'est encore un secteur où il y a de l'évolution.
Même les camions, hein, les chauffeurs de maintenant conduisent uniquement sur boîte automatique.
Sur boîte automatique.
Et oui.
Ah, oui. C'est un mythe qui tombe là. Vous n'auriez pas dû le dire, c'est un mythe qui tombe là. Ah mince, moi qui pensais toujours aux 6 vitesses
ça,
à étage.
Faire tomber les mythes.
Ça y est, c'est fini.
C'est fini, il n'y a plus d'étage dans les vitesses.
Ça, c'est les vieux véhicules.
Ah mince, moi j'étais dans ce mythe de je passe la première mais basse ou la première haute. Vous voyez, c'est fini ça.
C'est fini.
Ah, je suis déçu, je suis désolé de terminer là-dessus.
Mais enfin, on l'apprend toujours en auto-école. Hein.
Ben j'imagine, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un véhicule qui n'est pas de l'année.
Exactement.
Hein, et tomber sur ces, voilà, de vieux véhicules. Et puis, il vaut mieux se préparer au pire. Et puis après avoir le meilleur des équipements possibles. Très bien, ben merci à vous en tout cas, Laetitia Tocard et Géraldine Bengoa, de nous avoir donné toutes ces informations
merci.
Sur les métiers
avec
du
plaisir.
Transport.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Monsieur Deuze, je me retourne vers vous et vous êtes en train de m'envoyer la conclusion. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous étions en direct. Mais non, Monsieur Deuze, ce n'était pas la conclusion. Allez, on revient en arrière. Allez, on rembobine le générique. Nous avions encore des invités et notamment autour du développement durable de l'agriculture et de son environnement. On coupera ça au montage si vous le voulez bien. In Ben oui, on est en train de discuter. J'ai perdu le papier. C'était un titre de musique. Je ne l'ai plus. Il est assis, The Do, avec Going Through Walls. Et nous sommes toujours au Hall des Expositions à l'occasion de cette journée des formations supérieures.
Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Branchez-vous 102.4 FM, Radio
Principe Actif.
Et nous accueillons en plateau Emmeline Bastien. Emmeline, vous êtes étudiante à Hésite Pas. Alors Hésite Pas, c'est un joli nom d'ailleurs, hein, pour l'école. Hein. Hésite Pas, en fait, propose des formations pour devenir ingénieur en agriculture.
C'est ça.
Soit par la voie classique d'étudiants, voilà. Soit par la voie de l'apprentissage. Oui. Qu'est-ce qu'un ingénieur en agriculture ? Est-ce que c'est un agriculteur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui accompagne l'agriculteur pour des conseils, je ne sais pas, sur une exploitation ? En quoi consiste le travail d'ingénieur agriculteur ?
Alors, déjà, l'école forme des ingénieurs d'agriculture, donc pas des agriculteurs. Certaines personnes viennent dans l'école pour devenir agriculteur, mais c'est vraiment pas ce que veut l'école. Après, on trouve des ingénieurs agriculture à tout niveau, donc soit qui accompagnent les éleveurs, c'est possible, mais aussi en logistique, dans la transformation des produits, en marketing, il y a vraiment un large panel de débouchés.
Concrètement, quand on sort d'un cursus Hésite Pas, qu'on est ingénieur en agriculture, on postule à quel poste et quel est notre emploi ? Ou quelles sont les possibilités d'emploi ?
Alors, faut savoir que après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur, on a 90% de trouver un métier dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme.
Alors, vous êtes encore plus fort qu'en alternance et que ergothérapeute, là, pour le coup. Il y a un taux de réussite énorme, du coup, pour trouver un emploi dans ce milieu-là.
Oui, c'est vrai que c'est un domaine où on a tout le temps besoin d'ingénieurs agri. Du coup.
Il fait quoi cet ingénieur agri, concrètement ? Quelles sont ses connaissances et sur quel emploi il va y travailler à la chambre de l'agriculture peut-être ? Il travaille, sur à élaborer des produits phytosanitaires. Je ne sais pas à quoi il travaille finalement cet ingénieur.
C'est principalement faire des projets. Il y a des ingénieurs agri qui sont en conseil élevage, donc ils vont accompagner les éleveurs pour leur dire comment améliorer pour avoir une meilleure production. Voilà. On peut en trouver aussi dans les banques, chargés d'affaires.
D'accord, oui, qui vont du coup être beaucoup plus au point pour conseiller un agriculteur qu'un banquier classique qui n'y connaît rien, qui va raisonner uniquement en termes d'économie, sans avoir les tenants et aboutissants. L'avantage d'avoir un ingénieur en agriculture, c'est que il va même pouvoir peut-être proposer des pistes à l'exploitant directement.
C'est ça, on répond mieux à la demande des agriculteurs.
Aujourd'hui, nous vivons avec l'agriculture des moments charnières entre des agricultures classiques, des agricultures raisonnées, on dit, des agricultures biologiques, des agricultures relocalisées, des agricultures d'exportation. Enfin, aujourd'hui, on ne dit plus l'agriculture, mais les agricultures, pour ainsi dire. C'est justement pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui, des ingénieurs en agriculture sont nécessaires. Quelles questions se posent ces agriculteurs en agriculture ? Est-ce que c'est vraiment des questions autour des thématiques comme le bio, le développement durable, la relocalisation, quelles sont les questions que se posent les étudiants en ingénierie d'agriculture ?
Ça dépend vraiment de l'objectif des personnes.
Vous, concrètement, par exemple, très directement, Emmeline Bastien, vous êtes étudiante, vous avez un projet personnel, j'imagine. Je dis ça, c'est pour que ça reste moins théorique pour nos auditeurs. Quoi.
Oui.
Votre projet est théorique aussi ?
Le projet, pour l'instant, il n'est pas vraiment bien élaboré. C'est vrai que j'aurais préféré me baser sur de la production animale, mais c'est vrai que je suis encore en recherche de voie, donc pas évident.
ça ouvre quand même tout le champ de l'agriculture, d'être ingénieur en agriculture. J'imagine que les contenus amènent à avoir une réflexion aussi bien sur la production céréalière que peut-être du maraîchage, oui, que de l'élevage animal.
Oui, c'est ça.
Et peut-être même de la production de produits, comment est-ce qu'on dit, produits dérivés, enfin, les, je sais pas, les, quand on a des vaches, par exemple, on peut faire du lait, du fromage, des, oui, choses comme ça. Enfin, j'imagine, oui, que ça intègre toutes ces notions-là. Oui.
Et ainsi que l'agroalimentaire aussi.
L'agroalimentaire, oui, d'accord. Oui. Ce sont des métiers qui ont le vent en poupe, justement, parce que l'agriculture est sur des changements actuellement. Enfin, comment vous ressentez l'agriculture en général ?
Bah, y a la question de la population mondiale donc, qui croît, et donc les surfaces agricoles se voient diminuer. Et,
c'est incohérent.
Voilà, donc pour continuer à pouvoir nourrir tout le monde, il faut trouver des solutions.
Et là, chez les ingénieurs en agriculture, on trouve des solutions ?
Ils sont en train.
On n'a pas dit qu'on trouvait, on a dit, voilà, qu'on cherchait, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Ce sont clairement les enjeux qui vous sont exposés, c'est ça, population qui augmente, zone d'exploitation réduite, c'est clairement les questions et les enjeux de demain ?
Enfin, c'est le principal.
Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de prérequis pour rentrer dans l'école Hésite Pas, qui se situe à Mont-Saint-Aignan d'ailleurs, pour devenir ingénieur en agriculture ? Est-ce qu'il y a des prérequis ?
Prérequis, il faut avoir suivi une formation de bac S. On peut aussi intégrer l'école via une admission parallèle, donc par exemple en sortant de prépa ou de DUT ou de BTS. Voilà. Non, c'est... Ouais. Du moment qu'on a fait des matières scientifiques, de l'agronomie et tout, on peut postuler.
On peut postuler. Ouais. Bah, très bien. Eh bien, merci à vous, Émeline Bastien, d'être venue nous parler de ce cursus pour devenir ingénieur en agriculture. Merci à vous. Eh bien, ce quatrième module autour de la journée des formations supérieures sur notre antenne se termine. On aura parlé d'un tas de choses, d'un tas de cursus, d'un tas de possibilités. Et même à travers toutes ces possibilités d'alternance, on aura parlé d'orientation. On aura parlé d'un tas de choses, j'ai envie de vous dire. Ce qui était plutôt une bonne chose. En espérant vous avoir apporté plein d'éléments de réflexion, d'avoir donné quelques clés de compréhension aux jeunes qui cherche à s'orienter. Nous vous souhaitons du coup une bonne fin de journée sur notre antenne. Et puis voilà, moi je vais commencer à me repencher sur ma réorientation. Hein. Ce serait peut-être une bonne chose. Hein. Allez savoir, peut-être même ingénieur en agronomie. Ah, et pourquoi pas ?